Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Le quotidien des quotidiens, votre émission revue de presse quotidienne. C'est Hélène Denis qui vous accompagne en ce lundi 19 février 2018. Alors, Jean-Sébastien Laliberté est en congé aujourd'hui et demain, et c'est Maurice Bolduc qui est derrière la console. Bonjour Maurice.
Oui, bonjour.
Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas rencontrés, croisés. Ça va?
Oui, vous-même?
Oui, ça va bien, merci. Alors, mon cher, est-ce que vous avez préparé une chronique éphéméride?
Oui, en ce 19 février, ouais.
Allez-y.
Donc, aujourd'hui, ce serait la journée mondiale internationale de la baleine. C'est une journée soulignée par les écologistes du monde entier. Pour se rappeler bon, que les baleines existent, puis aussi pour faire sa défense et la protection de l'ensemble des mammifères marins. Parce que la chasse commerciale a été interdite en 1982, j'ai vu. Mais par la bande, il y en a qui disent on chasse, mais c'est de manière scientifique, donc on bypasse la loi. Quelques événements. En 1519, le conquistador Hernán Cortés arrive au Mexique où il va détruire l'Empire aztèque. En 1670, c'est l'émission de la première monnaie en Amérique française. En 1878, Thomas Edison fait breveter sa version du phonographe. S'il savait où ça rendait aujourd'hui, il serait peut-être agréablement surpris.
Oui.
En 1906, le médecin américain John Harvey Kellogg et son frère entrepreneur Will Kate Kellogg créent la Battle Creek Cornflake Company. Donc, nos petites céréales qu'on mange, que vous pouvez manger le matin, ça remonte à 1906. En 1918, la Russie soviétique abolit par décret la propriété privée de la terre, de l'eau et autres ressources naturelles. Bon, ça suit de quelques semaines, mois, la révolution russe. En 1928, un incendie aux mines d'or Hollinger à Timmins, en Ontario, fait 39 morts. En 1928, toujours le 19 février, c'est la fin des deuxièmes Jeux olympiques qui se tenaient à Saint-Moritz, deuxième jeu d'hiver, donc en 1928. En 1959, un accord reconnaissant l'indépendance de Chypre est signé à Londres par la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, en 1961, Joseph-Alexandre de Sèvres et Paul Langlais fondent la station privée CFTM qui deviendra quelques années plus tard TVA. En 1963, l'URSS informe le président des États-Unis, John F. Kennedy, que plusieurs milliers de ses 17 000 soviétiques stationnés à Cuba seront rapatriés après la crise de Cuba. En 1964, c'était la sortie du film « Les parapluies de Cherbourg », comédie musicale de Jacques Demy, qui nous faisait connaître, entre autres, Catherine Deneuve.
Et les très belles chansons de Michel Legrand.
Ah, ouais. Et j'ai même, s'il y a lieu, j'ai une version de Monique Lérac des parapluies de Cherbourg.
Ça vous parle. Oui?
Ouais. En 1980, Bon Scott, chanteur d'AC/DC, meurt étouffé. C'est un peu dégueulasse. Il meurt étouffé dans son vomi à la suite d'une soirée un peu trop arrosée. Qu'est-ce que tu veux? En 1989, Ottawa conclut que les versets sataniques sont légaux. Illégal, en fait, le roman. Le fisc avait bloqué l'importation du livre quelques jours à la suite de plaintes de musulmans intégristes. Donc, ça remonte pas à très récemment, les intégristes. Et le régime d'Iran avait mis une fatwa sur la tête de l'auteur Salman Rushdie. En 2008, Fidel Castro annonce dans l'édition électronique de la Gramma, qui est l'organe officiel du régime communiste là-bas, qu'il renonce à la présidence de Cuba. Quelques naissances. Nicolas Copernic, chanoine, médecin et astronome polonais, naît en 1473. En 1896, André Breton, écrivain français et un des pères du dadaïsme, naît, lui, en 1896.
Surréalisme aussi.
Mm-hmm. Pierre Barou, lui, naît en 1934. Pierre Barou, auteur, compositeur,
comme
interprète.
Comme nous voit, badabada.
Oui, entre autres, fondateur de l'étiquette Sarava. Et en 1967, plus près de nous, Madame Nathalie Bondil, qui est directrice et conservatrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal, naît aujourd'hui. Bonne fête, Madame
Quelle
Bondil.
Quelle année?
En 1967.
En 67, tout était beau.
Oui, c'était l'année de l'expo. Ça lui donne 51 ans, la dame.
Merci, Maurice.
Et j'ai quelques décès.
D'accord.
André Gide, écrivain français, prix Nobel de la littérature en 47, meurt en 51. Olivier Villa-Légaré, acteur, chanteur québécois traditionnaliste aussi, meurt en 1978. Deng Xiaoping, qui a dirigé la Chine post-Mao, meurt en 1997. Charles Trenet, lui, nous quittait en 2001. Et le dernier, ben, c'est Umberto Eco, qui est écrivain philosophe français, qu'on avait connu entre autres par le nom de la rose.
Au nom de la rose.
Qui nous quittait en 2016. Et voilà, ça fait le tour de ce 19 février.
À la une de la presse aujourd'hui, éducation au cégep, de l'échec. Des milliers d'élèves échouent à la moitié de leurs cours et signent des contrats de réussite, entre guillemets, pour revenir en classe. Un engagement qui n'est pas toujours contraignant. Trop clément, nos cégeps? La presse à Salt Lake City, au paradis des entrepreneurs étudiants. Train de banlieue, rude hiver pour les fidèles. La chronique d'Yves Boisvert, pourquoi j'aime les jeux. Et pause famille relaxée, c'est la relâche, entre parenthèses, ou presque, culture, sport, jeux, bricolage. Week-end fatal en motoneige, encore deux motoneigistes qui ne rentreront jamais à la maison, de bons vivants qui mordaient à pleines dents dans la vie et qui ont laissé la leur sur les sentiers de motoneige en fin de semaine. Depuis le début de l'hiver, 17 motoneigistes sont morts au Québec et deux n'ont toujours pas été retrouvés. Est-ce que la sécurité est défaillante sur les sentiers? Non, en croit la famille de l'une des victimes et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, FCMQ. Sa femme le suivait en arrière et lui a dit « Suis-moi, on rentre à la maison ». Il était tard et il voulait la protéger en allant moins vite. Il roulait peut-être bien à 40 ou 50 km à l'heure. À un moment donné, sa femme l'a perdu de vue. Ils l'ont retrouvé dans une curve à côté d'un arbre, raconte Régis McNichol, frère de Mario McNichol. Ce dernier a perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi près de la Malbaie dans Charlevoix. L'enquête confirmera le cours des événements. En attendant, la famille de M. McNichol, nouvellement grand-père, est si fière de l'être et convaincue qu'il n'a pas fait preuve d'imprudence ou de témérité. Les questions s'accumulent au même rythme que les morts, parmi lesquelles, est-ce que les sentiers sont suffisamment bien entretenus? On ne peut pas chialer contre les pistes de skidoo, ce sont des bénévoles qui s'en occupent. Ils font du mieux qu'ils peuvent, ils font ce qu'il faut pour que les motoneigistes soient en sécurité, estime le frère de Mario McNichol. La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec compte 1200 patrouilleurs bénévoles. Les sentiers sont entretenus par 200 clubs de motoneige et 4500 bénévoles. Alors, la motoneige en chiffres, je poursuis avec les chiffres. 180 000, c'est le nombre de motoneiges enregistrés. 200, c'est le nombre de clubs de motoneigistes. 16 ans, âge légal pour conduire une motoneige, moyennant un certificat d'aptitude pour les moins de 18 ans. Et 12 cm, épaisseur de glace minimum pour supporter une motoneige. L'utilisation des transports collectifs fait du surplace. La part modale des déplacements matinaux réalisés en transport collectif entre la maison et le travail n'a augmenté que de 1,5 % dans la grande région de Montréal au cours des 10 dernières années. Il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser. D'abord parce qu'au moins 7 régions métropolitaines du Canada et des États-Unis ont fait mieux dans la même période. Ensuite, parce que la part des déplacements solos en automobile demeure à peu près la même depuis 15 ans dans la grande région de Montréal. Ces données figurent dans le plus récent bulletin de l'Observatoire Grand Montréal, rendu public hier par la communauté métropolitaine de Montréal. Cette analyse est limitée au déplacement des navetteurs entre la maison et le travail, qui représente environ la moitié de tous les déplacements réalisés quotidiennement en période de pointe dans les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal, CMM. Elle confirme plusieurs tendances observées au cours des dernières années dans la circulation du matin. Une progression des déplacements faits à vélo pour le travail, une augmentation marquée du nombre de véhicules en circulation sur les réseaux routiers et une perte d'intérêt pour les transports en commun dans près du tiers des villes de banlieue et dans presque la moitié des arrondissements de Montréal. En 2016, la région de Montréal arrive au troisième rang sur 41 grands centres urbains du Canada et des États-Unis pour la part des navetteurs qui vont travailler en transport en commun. La part modale s'élève à 23,5. Seules les régions métropolitaines de New York, 32,9, et de Toronto, 24,3, devancent la métropole du Québec à ce titre. Selon la CMM, Montréal pourrait toutefois glisser au cinquième rang d'ici peu, en se faisant déclasser par les régions de Vancouver et de San Francisco. Celles-ci ont connu des augmentations de presque 4 en 10 ans, alors que la proportion des navetteurs qui vont travailler en transport collectif a augmenté de 1,5 à Montréal durant la même période. 7 régions métropolitaines ont fait mieux que celle de Montréal entre 2006 et 2016. Nouvelle exclusive à la presse, Valérie Plante annoncera ce matin qu'un premier élu de l'ex-parti de Denis Coderre siégera à son comité exécutif tout en demeurant dans l'opposition, a appris la presse dans un geste d'ouverture qui pourrait pimenter les débats à l'Hôtel de Ville. Adrien Parizeau, conseiller municipal dans l'arrondissement d'Aoncic-Cartierville, sera chargé des questions de sport, des loisirs et de la jeunesse en tant que membre associé du comité exécutif, l'équivalent du conseil des ministres au municipal. Ce n'est pas la première fois que la nouvelle mairesse recrute dans les rangs de l'ex-formation politique de Denis Coderre, mais c'est la première fois qu'un élu issu de ce parti siégera au comité sous sa propre bannière. Jean-François Parenteau, connu du public pour ses responsabilités en matière de déneigement, a été élu avec équipe Denis Coderre, mais siège maintenant comme indépendant. Hier soir, la presse n'a pas pu obtenir d'entrevue avec M. Parizeau. Selon nos informations, c'est Adrien Parizeau qui aurait insisté pour ne pas avoir à abandonner son allégeance politique moins de 3 mois après avoir été élu sous cette bannière. Les responsabilités dont il hérite, les sports, les loisirs et la jeunesse, sont présentement entre les mains de Rosanie Filato, qui a battu l'ex-députée Elsie Lefebvre pour devenir conseillère municipale dans Villeray Parc Extension. L'élu conservera les dossiers sociaux, communautaires et liés à l'itinérance qu'elle mène déjà. À 27 ans, M. Parizeau est le plus jeune élu du conseil municipal. Il est le petit-fils de l'ex-premier ministre Jacques Parizeau, mort en 2015. Il s'est impliqué au Parti québécois pendant plusieurs années avant de faire le saut en politique municipale. Rectificatif, les funérailles de l'ex-journaliste de la presse Jean Beaunoyer seront célébrées dimanche prochain, le 25 février, et non le 18 février, comme nous l'avons écrit samedi, en la chapelle du complexe funéraire Magnus Poirier à Montréal à 19h. Nos excuses. La semaine aura des airs de printemps, mais oublions tout de suite l'idée des terrasses. Le redoux sera accompagné de quantités significatives de pluie. Jusqu'à mercredi, les températures oscilleront entre 5 et 12 degrés Celsius dans le sud du Québec et de 20 à 30 mm de pluie sont attendus, prévoit Environnement Canada. Demain, la ville de Québec pourrait recevoir des précipitations de pluie verglaçantes. Cet important redoux pourrait être porteur de mauvaises nouvelles. La pluie, s'additionnant au ruissellement dû à la fonte du couvert de neige, pourrait causer des inondations par endroits, avise Environnement Canada. De son côté, Pierre Corbin, d'Hydrométéo, reste prudent. Ça pourrait être important, mais il manque encore des données qui se préciseront lundi, aujourd'hui, mais si ça a débordé, ce sera mardi soir, demain et plutôt mercredi.
À l'abri pour une fois.
Fanny Bloom, un album qu'on attend dans les semaines à venir. Au mois de mars, on entendait la pièce « On s'aimera ».
À la une du Devoir, Pyeongchang 2018, Alex Beaulieu-Marchand a réalisé la descente de sa vie dimanche, permettant ainsi au Canada d'ajouter une médaille à sa récolte olympique. Le skieur acrobatique de Québec a remporté la médaille de bronze à l'épreuve de slopestyle. Québec encadre l'usage des pesticides, entre guillemets, néoniques. C'est le diminutif pour néonicotinoïdes. Utilisation du transport en commun, une hausse timide qui appelle à la mobilisation. Livre Cuba et les décombres de ses illusions, loin des touristes déjà nostalgiques d'un monde en voie de disparition, le journaliste Frédéric Lavoie s'est proposé d'encapsuler le présent, entre guillemets, de Cuba, non pas pour prédire son avenir, mais parce que ce présent aurait peut-être la force d'éclairer le futur. Les polyactifs, c'est mordu du multitâche qui bouscule le monde du travail. Congrès du NPD, le chef Jagmeet Singh a le Québec dans sa mire et voit Camillien Houd les enjeux d'une route à repenser. Culture, prix BAFTA, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve repart avec deux récompenses. Actualité, Elvis, la drogue et moi, une chronique de Jean-François Nadeau, et Le monde métastase en Syrie, une chronique de François Brousseau. Exit l'utilisation tous azimuts des néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d'abeilles, à l'instar d'un citoyen ayant besoin de médicaments, les producteurs agricoles devront bientôt obtenir une prescription de la part d'un agronome pour utiliser 5 des pesticides considérés comme les plus dangereux pour la santé humaine et l'environnement. Sans les interdire, Québec confirme ainsi de nouvelles restrictions sur l'utilisation des 3 néonicotinoïdes les plus courants, ainsi que l'atrazine et le chlorpyrifos. La ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Isabelle Melançon, doit en faire l'annonce lundi. Elle sera en compagnie d'agronomes, d'apiculteurs et d'environnementalistes, des personnes susceptibles de faire partie d'un comité de suivi qui sera créé dans la foulée de ces modifications réglementaires. « L'Association des véhicules électriques du Québec vient de lancer une pétition exigeant le déploiement de 2000 bornes de recharge rapide au Québec. Selon le regroupement, la rareté des bornes rapides fait en sorte que plusieurs Québécois refusent d'acquérir des véhicules électriques. Le président de l'association, Simon-Pierre Rioux, interpelle le gouvernement. Il dit constater que le rythme de déploiement a nettement ralenti dans les 12 derniers mois, faute de partenaires financiers privés. Il croit que Québec pourrait utiliser le fonds vert pour financer l'installation de bornes rapides. Les jours de l'usine d'Oreo montréalaise sont comptés. Le géant Mondelez International avait annoncé la fermeture en 2016. Il fut un temps où tout le monde, où tout le quartier de l'Est, plutôt de l'Est de Montréal, environnant la biscuiterie de la rue Viaud, humait l'odeur des Oreos qui y étaient confectionnés. Cette époque sera définitivement révolue d'ici les prochains jours lorsque le géant mondial Mondelez International fermera pour de bon son usine montréalaise. Selon un porte-parole syndical, Pierre Grenier, plusieurs des 454 employés y travaillaient depuis plusieurs décennies. L'annonce de la fermeture en 2016 a été ressentie comme un choc. Après un arrêt graduel de la production, le bâtiment d'une superficie de 300 000 pieds carrés est finalement mis en vente. Le PQ reverrait la rémunération des médecins s'il est élu. Le Parti québécois a dévoilé dimanche sa stratégie en santé en vue des élections de l'automne prochain, disant notamment qu'un gouvernement du PQ décloisonnerait les actes cliniques, reverrait le mode de rémunération des médecins et réduirait la charge de travail des infirmières et des préposés. En conférence de presse dimanche à Montréal, le chef Jean-François Lisée, la porte-parole en matière de santé Diane Lamarre et le porte-parole en matière de services sociaux et de protection de la jeunesse, Dave Turcotte, ont présenté un programme du parti en santé, précisant bon nombre d'engagements chiffrés et d'échéanciers. La série de mesures inclut aussi l'implantation d'un réseau de cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées, cliniques sans médecins destinées aux urgences mineures et au suivi de certaines maladies, et la création d'équipes d'infirmières et de pharmaciens en centres hospitaliers de soins de longue durée. Ces dernières semaines, le gouvernement libéral et son ministre de la Santé, Gaétan Barrette, ont été pris dans la tourmente relativement au salaire des médecins spécialistes et à un cri du cœur des infirmières sur leurs conditions de travail. La formation politique au troisième rang dans les intentions de vote selon plusieurs sondages qui placent la CAQ devant le Parti libéral du Québec choisirait également de rétablir la couverture publique de la Fondation In Vitro et le poste de commissaire à la santé et au bien-être. Dans la section éditoriale, une lettre intitulée « In Gun We Trust », l'argument de la National Rifle Association et de beaucoup trop d'Américains est que ce n'est pas le fusil d'assaut semi-automatique qui est le problème, mais le propriétaire du doigt sur la détente. D'accord, mais si le jeune Nicholas Cruz n'avait pu avoir qu'un lance-pierre en dessous de son lit, les choses auraient été très différentes, non? Et c'est signé Marc Boucher, Laval, 18 février 2018. La justice nigériane a libéré 475 nouveaux membres présumés de Boko Haram au terme de procès de masse où la majorité des personnes inculpées n'ont pas pu être condamnées faute de preuves suffisantes, a annoncé dimanche le ministère de la Justice. Des centaines de membres présumés du groupe djihadiste ont comparu cette semaine devant un tribunal installé dans une base militaire à Kenji, une ville reculée de l'État du Niger dans le centre du Nigeria. Au total, 1669 personnes étaient présentées à la barre à l'ouverture des audiences qui avaient démarré en octobre. Un premier groupe de 468 avait alors été libéré au bout de quelques jours. Boko Haram mène depuis 2009 une insurrection sanglante dans le nord-est du Nigeria, ayant fait plus de 20 000 morts.
Depuis quelques jours, je vis dans le silence des quatre murs de mon amour. Depuis ton départ, l'ombre de ton absence me poursuit chaque nuit et me fuit chaque jour. Je ne vois plus personne, j'ai fait le vide autour de moi. Je ne comprends plus rien parce que je ne suis rien sans toi. J'ai renoncé à tout parce que je n'ai plus d'illusion de notre amour. Écoute la chanson. Non, je ne pourrai jamais.
Monique Lérac qui nous chantait Les parapluies de Cherbourg. Et on vous rappelle que ce film, très beau film, sortait en cette date, 19 février 1964.
À la une du Journal de Montréal de ce 19 février, la descente de sa vie, le bronze pour Alex Beaulieu-Marchand. Quatre recruteurs se prononcent. Que vaut Max Pacioretty? Le fonds vert pour payer de vieilles dettes. Trois points de suspension, même celle du métro de Laval. L'argent du fonds vert pour payer le métro de Laval inauguré en 2007. Des dizaines de millions de dollars servent à rembourser les dettes de vieux projets. C'est un article de Charles Lecavalier en direct du bureau parlementaire. Pour l'année 2015-2016, le ministère des Transports MTQ a décaissé 110 millions pour le prolongement du métro de Laval, pourtant lancé sous le gouvernement Landry et mis en service en 2007. Au moment de l'inauguration du métro, le fonds vert venait à peine d'être créé. Le MTQ a aussi payé 114 millions pour le train de l'Est annoncé en 2007 et livré en 2014. Ces montants proviennent du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes financé à près de 60 % par le Fonds vert durant cette année, selon un document présenté à des élus et obtenu par notre bureau parlementaire. Le MTQ explique que ces sommes sont toujours versées pour rembourser des emprunts associés avec ces deux projets et qui sont en lien avec le Fonds vert car il s'agit de transports en commun. Le MTQ affirme réduire de 21 000 tonnes les émissions de GES, gaz à effet de serre, grâce à ces projets en 2017. Pour Philippe Cousineau-Morin, directeur de Trajectoire Québec, cette situation est inacceptable. La compréhension publique du Fonds vert, c'est l'accélération de la lutte au changement climatique. Ici, on se rend plutôt compte que le MTQ a trouvé une nouvelle façon de financer des projets passés, a-t-il déploré. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a donné le coup d'envoi hier d'une visite d'une semaine en Inde consacrée au renforcement des échanges et de l'investissement en visitant le Taj Mahal, la principale attraction touristique du pays. M. Trudeau, son épouse Sophie Grégoire Trudeau et leurs trois enfants ont pris la pause devant ce joyau d'architecture moghole, étape incontournable pour les dignitaires étrangers en visite. Le premier ministre rencontrera son homologue, Narendra Modi, Iog, c'est le prénom, donc I-O-G-U-E, ensuite Narendra et Modi. Où il sera question, entre autres, du resserrement des liens économiques entre le Canada et l'Inde. Auprès des gens d'affaires, M. Trudeau veut promouvoir le commerce et l'investissement entre les deux pays. En 2016, le commerce bilatéral de marchandises entre les deux pays a atteint les 8 milliards de dollars, tandis que le commerce bilatéral de services s'est élevé à 2,1 milliards. Les semaines se suivent et se ressemblent à l'aéroport Montréal-Trudeau alors que deux nouveaux incidents impliquant des pointeurs laser dirigés vers des avions ont été signalés au cours des derniers jours, s'ajoutant aux six ayant eu lieu la semaine précédente. Le problème est si important que le gouvernement pourrait aller jusqu'à encadrer la vente de ces objets en apparence inoffensifs en interdisant la vente des modèles les plus puissants ou encore en y apposant un avertissement. Je ne sais pas s'ils sont conscients du fait que s'ils pointent un laser dans le cockpit d'un avion qui est en train d'atterrir, cet avion peut s'écraser, a réagi Marc Garneau, le ministre fédéral des Transports. Pointer un rayon laser vers un avion est un acte criminel passible d'une amende maximale de 100 000 $ et d'une peine d'emprisonnement de 5 ans. Au total, 379 événements du genre ont été répertoriés au Canada l'an dernier et 527 en 2016. Une adresse courriel créée par le gouvernement Couillard pour échanger avec les Québécois sur la politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes n'a pas généré d'engouement puisque seulement 4 courriels ont été reçus en 8 mois, a appris l'agence QMI. L'adresse a notamment été inscrite sur une lettre envoyée à environ 1000 acteurs des milieux politiques et universitaires et publiée sur le site Web du ministère. Sauf qu'en 8 mois, l'adresse courriel n'a reçu que 4 courriels et aura servi à l'envoi d'un seul. La très grande majorité de la correspondance et des commentaires relatifs à la politique d'affirmation ont été reçus à l'adresse courriel publique du ministre ou par courrier régulier, a assuré Gabriel Fallu, attaché de presse du ministre responsable des Relations canadiennes Jean-Marc Fournier. L'adresse a été peu publicisée. La vie d'ébullition d'eau qui touchait les habitants de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve depuis vendredi a été levée hier en milieu de journée. Vendredi dernier, le bris d'une importante conduite d'aqueduc avait forcé la ville à entreprendre des travaux d'urgence. Même si la fuite avait été réparée, les résidents du secteur situé au nord de la rue Sherbrooke, à partir de l'est de la rue Joseph-Arrodier jusqu'à Montréal-Est et jusqu'aux limites de l'arrondissement d'Anjou, devaient faire bouillir l'eau à gros bouillon avant de la consommer. Les citoyens peuvent de nouveau boire de l'eau du robinet sans problème, assurer la ville. La famille d'une disparue cherche encore des réponses. Elle demande à la Sûreté du Québec d'intervenir dans l'enquête. On se sent abandonnée. Elle a peut-être été assassinée. On parle de la famille de Marilyn Bergeron ici. Nous, on le vit comme un homicide, mais sans pouvoir faire notre deuil, laisse tomber André Béchard, la mère de Marilyn. Café Dépôt de Saint-Romuald sur la rive sud de Québec le 17 février 2008 à 16h. C'est la dernière trace qu'a laissée la jeune femme de 24 ans avec sa carte de crédit. La réalité, c'est que l'enquête est toujours à la case départ 10 ans plus tard, affirme Mme Béchard. L'hypothèse qui a été retenue par le service de police de la ville de Québec est celle du départ volontaire suivi d'un suicide. On voudrait que quelqu'un porte un regard neuf sur le dossier, poursuit Mme Béchard. Elle croit que si sa fille s'était réellement enlevée la vie, un corps aurait fini par être retrouvé. Les parents de Marilyn Bergeron pensent pouvoir la retrouver vivante. Hier, des portraits de vieillissement de la femme qui aurait 34 ans ont été dévoilés en conférence de presse. Le Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, organisera une marche de 500 km entre Québec et Ottawa afin de revendiquer un plus grand respect du droit au logement. D'après l'organisme de défense des droits des locataires qui célèbre cette année son 40e anniversaire, il s'agit du projet le plus ambitieux de son histoire. Sous le thème de « Ville en village pour le droit au logement », la marche du FRAPRU s'amorcera le 2 septembre à Ottawa et prendra fin le 29 septembre à Québec. Une trentaine d'organisations sociales canadiennes et de regroupements montréalais appuient la démarche. Le FRAPRU souhaite ainsi presser les instances gouvernementales provinciales et fédérales à agir pour améliorer l'accès aux logements et des ménages à faible revenu. Des voyageurs qui prenaient place dans un avion d'Air Canada effectuant la liaison entre Zurich en Suisse et Toronto la semaine dernière ont été exposés à la rougeole, selon les autorités de la santé de la région de Peel. La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse qui se répand rapidement parmi les personnes non immunisées ou vulnérables. Les enfants de moins d'un an, les femmes enceintes et les gens avec un système immunitaire affaibli qui étaient sur le vol 879 d'Air Canada devraient contacter immédiatement la santé publique de Peel, a expliqué l'organisme dans un communiqué. Les voyageurs qui se trouvaient simplement à l'aéroport Pearson de Toronto lors du passage de l'enfant malade ne courent aucun risque.
J'aime pas la chanson, on peut pas s'y fier, c'est par réfraction qu'elle préfère entrer. La v'là qui se radine et dès le réveil, elle vient en chafouine, tout rouge l'oreille, et dans ton cerveau, v'là que tourne en rond, à coups de marteau, trois notes à la con. J'aime pas la chanson. J'aime pas la chanson, elle sait pas se tenir. Quand on a le bourdon, ça la fait sourire. Elle pleure sa misère quand le ciel est bleu. Ou bien le contraire, elle sait pas ce qu'elle veut. Faut voir comme elle change d'avis et de ton, et comme elle mélange serviette et torchon. J'aime pas la chanson. Qu'elle se démène, qu'elle se promène, qu'elle s'amourache, qu'elle porte moustache, qu'elle s'époumonne, se tire lipimponne, qu'elle perde son souffle en pantoufle en moufle, qu'elle livre bataille, qu'elle reste où s'en aille, qu'elle dise oui ou non, j'aime pas la chanson. J'aime pas la chanson, elle se prend pour quoi, donneuse de leçons, en grand tralala, la voilà qui hue, la voilà qui gronde, et même pas foutue de changer le monde. Mais tant qu'elle n'essaye qu'avec des flonflons, c'est pas demain la veille, la révolution. J'aime pas la chanson. J'aime pas la la chanson. Souviens-toi, dit-elle, d'un air polisson, de quoi elle se mêle. Ne lui parlez pas, elle répète tout ce qu'elle dit de moi, elle dit de vous. L'amour et la mort et les trahisons, que ce soit mon sort, c'est pas ses oignons, j'aime pas la chanson. Qu'elle se démène, qu'elle se promène, qu'elle s'amourache, qu'elle porte moustache, qu'elle s'époumonne, se tire l'ipimponne, qu'elle perde son souffle en pantoufle en moufle, qu'elle livre bataille, qu'elle reste où s'en aille, qu'elle dise oui ou non, j'aime pas la chanson. J'aime pas la chanson, c'est parce que sans doute j'en connais le fond, les cales et les soutes, tant d'heures de trim et tant de questions à chercher la rime, à bouffer du son. C'est une vie entière pendue au crayon, tout ça pour ne faire pauvres ambitions, rien qu'une chanson. Une qui se démène, une qui se promène, une qui s'amourage, qui porte moustache, une qui s'époumonne, se tire l'ipimpode, une qui perd son souffle en pantoufle en moufle, qu'elle livre bataille, qu'elle reste ou s'en aille, qu'elle dise oui ou non, rien qu'une chanson.
Juliette qui nous chantait « J'aime pas la chanson ».
Les journaux régionaux, Le Droit, Jacques Normand Sauvé, l'insolite mariage du yoga et de la bière. Ils sont une cinquantaine de yogis concentrés sur leur tapis à l'intérieur du pavillon Aberdeen, irradié de soleil. Il est tout juste 11h du matin ce samedi. Au programme, les positions de base du yoga, mais avec cette particularité bien spéciale, une institutrice souriante, un verre de bière à la main, effectue une flexion du corps, tout en vantant la couleur et l'arôme d'une bière brune. « Sentez ce doux parfum », dit-elle à ses élèves. En parlant de la bière, il tient du chocolat et du café. Puis, elle invite ses disciples à prendre une gorgée de bière et à la savourer. Voilà donc tout le principe du programme Yoga on Tap, une des activités de l'entreprise de la yogi Ashley Kokelj d'Ottawa, qui pilote aussi les activités Bike to Beer et Run to Beer. Le directeur général du Brew Fest d'hiver d'Ottawa, Michael O'Farrell, s'associe depuis 3 ans à l'école de yoga d'Ashley Kokelj pour offrir aux visiteurs cette expérience insolite qui existe cependant ailleurs dans le monde. Des programmes Yoga on Tap ont aussi pignon sur rue à Vancouver, Miami et dans le Missouri, entre autres. Le yoga implique de la détente et la découverte de nouvelles sensations, un peu comme la bière. La bière, comme la dégustation de vin et le yoga, c'est très épicurien. Les sensations ressenties quand tu bois une bière sont semblables à celles du yoga. C'est un concept cool, c'est le mélange de deux choses très tendances de nos jours, explique le jeune promoteur Michael O'Farrell, qui est aussi derrière les deux festibières de Gatineau et celui de Toronto. Durant 2 jours, vendredi et samedi, le Brewfest d'Ottawa aura donc accueilli entre 7 000 et 8 000 personnes, à qui on aura offert un choix de 157 différentes bières de microbrasserie locale. À la fin de l'expérience, on aura ingurgité entre 12 000 et 16 000 litres de bière issus de 44 différentes microbrasseries. Le profil type de la clientèle? Elle est majoritairement âgée de 25 à 45 ans, autant composée de femmes que d'hommes, et elle vient s'y balader en couple ou entre amis. Autre étonnante observation, 50% de la clientèle du Festibière de Gatineau arrive d'Ottawa, tandis qu'à peine 5% de la clientèle du Brewfest d'Ottawa est québécoise. Il s'agissait de la 4e édition du Brewfest d'Ottawa, mais une toute première expérience au pavillon Aberdeen du parc Lansdowne, plus vaste que le site des 3 premières éditions, soit l'édifice de l'horticulture. Un visage gonflé à bloc pour Samuel Girard, c'est dans Le Quotidien. En remportant sa première médaille d'or à ses tout premiers Jeux olympiques samedi matin à l'épreuve du 1000 mètres, Samuel Girard a fait soulever le toit du centre communautaire de son village natal de Ferland et Boileau, où près de 150 personnes s'étaient réunies dès 5 heures du matin pour assister à sa prestation. Que d'émotions pour ses concitoyens déjà gonflés à bloc et surtout pour ses proches restés au Saguenay. Dimanche, après la folle journée, le calme était revenu à la maison des grands-parents paternels du champion olympique Gaétan Girard, 86 ans, et Ginette Lavoie, 72 ans. Même ragaillardi par l'exploit de Samuel, le grand-papa était parti à la pêche sur la glace pour retrouver le calme après des émotions aussi intenses. C'est donc grand-mère Ginette qui a fait le point sur cette journée au air de l'ordinaire lorsque jointe en après-midi. On était fatigués. On n'est pas jeune et il nous fait tellement vivre des sensations fortes qu'on devient fébrile. On a hâte à mardi pour les qualifications du 500 mètres. On est confiant car le 500 mètres, c'est vraiment sa force. On est fier de lui. Il a tellement travaillé fort pour se rendre jusque-là, il a sacrifié ses amis, ses loisirs et il a quitté son village pour atteindre son but, a confié la grand-maman qui s'ennuie bien sûr du petit-fils. Toute la journée de samedi a été occupée. Dans l'après-midi, on a eu beaucoup de visites puis on s'est reposé. On a dormi un peu, mais on était encore sur l'adrénaline, avoue Madame Lavoie. Par contre, j'ai très bien dormi. Je suis reposée et prête pour mardi matin. J'arrive de l'épicerie, de la pharmacie et les gens nous arrêtent et nous félicitent. J'ai d'ailleurs rencontré deux caissières qui sont allées avec lui à l'école secondaire de la baie et qui le suivent au jeu. Madame Lavoie est impressionnée par l'appui populaire et celle des résidents de la petite municipalité de 600 habitants. Les gens de Ferland et Boileau et leurs bénévoles ont tellement organisé d'activités, chapeau à eux. Le grand-père de Samuel, lui, est très attaché et il a exprimé ses craintes que le nouveau statut de champion olympique ne change son petit-fils, ce à quoi ce dernier a tenu à le rassurer lors d'une entrevue à Radio-Canada après sa victoire. « Le petit gars qui jouait dans ta cour avec son auto va rester le même », a-t-il confirmé avec son grand sourire. Faut dire que Samuel est gâté. Son grand-père lui a même composé un air d'accordéon. Gaétan Girard a une quinzaine de compositions de son cru dans son répertoire. Quand Samuel a commencé à gagner des médailles, ça l'a inspiré et ils font parfois jouer sa musique à la télévision. Gaétan a expliqué que tout comme Samuel, la musique commençait tranquillement à son rythme et quand Samuel accélère, ça l'a incité à accélérer lui aussi. La fièvre olympique était une fois de plus présente à Ferland et Boileau avec la diffusion en direct des courses du 1000 mètres samedi matin, au centre communautaire où près de 150 personnes ont brunché tout en suivant les exploits de Samuel. La salle était déjà bondée à 5 heures. Les gens étaient sur le bout de leurs chaises. On a vécu des hauts et des bas. « Je pense qu'on en parlera pendant longtemps », a témoigné par téléphone Monique Witzel, agente de développement et communautaire de la municipalité. Les gens ont bien hâte de revoir leur champion olympique. Le groupe de bénévoles derrière les activités des derniers jours travaille déjà à la préparation d'un événement en vue d'accueillir Samuel Girard. Le patinage de vitesse courte piste fait partie des disciplines reines du Canada aux Jeux olympiques. Sur les 28 médailles au compteur, incluant la médaille d'or de Samuel Girard, samedi, on peut aussi dire que la tradition a largement fait sa part pour cette tradition d'excellence avec une belle représentation non seulement en termes d'athlètes, mais aussi de médaillés olympiques. Ainsi, le natif de Chicoutimi, Marc Gagnon, et l'Almatois d'origine, François-Louis Tremblay, font partie des Canadiens les plus décorés aux Jeux olympiques avec 5 médailles chacun. La Philicinoise Marianne Saint-Gelais n'est pas en reste, avec 3 pour l'instant, tout comme son conjoint Charles Hamelin. Ce dernier a d'ailleurs un peu de sang de bleuet de par sa mère, Manon Goulet, fille de l'ancien maire de Péribonka, Gilbert Goulet. Sur le site olympique.ca, on souligne aussi que la meilleure récolte du Canada a été de 6 médailles à Salt Lake City 2002. De ce nombre, 3 appartiennent à Marc Gagnon, François-Louis Tremblay et Marie-Ève Drolet de La Terrière, en ont chacun obtenu une au relais. Le Canada a été de tous les podiums du relais du 3000 mètres féminin depuis sa médaille d'or à Albertville en 1992. Et les patineurs de la région ont encore 2 autres journées pour ajouter des médailles au palmarès canadien. Mardi, Marianne, Valérie et Cassandra feront équipe avec Kim Boutin pour la finale du relais à 6h23 au Québec. Normalement, les Canadiennes devraient monter sur le podium. Il s'agit ici de Marianne Saint-Gelais, bien sûr, de Cassandra Bradette et de la baie riveraine Valérie Maltais. Et je termine en disant, en lisant, si un sentiment de fierté envahit la région en entier. Lorsque Samuel Girard a obtenu sa médaille d'or samedi, ce sentiment était plus fort encore dans un salon de Chicoutimi-Nord, le salon d'Isabelle Proto, plus précisément. Madame Proto a entraîné le patineur avec les F-18 de la baie, mais aussi Kim Boutin à Sherbrooke quelques années auparavant. C'est donc dire que derrière l'or de Samuel Girard et le bronze de Kim Boutin, deux médailles obtenues samedi matin, il y avait un peu, beaucoup, d'Isabelle Proto, une réussite pour laquelle l'entraîneuse refuse, bien entendu, de prendre tout le crédit. Kim et Samuel ont eu 6 entraîneurs durant leur carrière, relativise Madame Proto. J'espère leur avoir apporté quelque chose, mais le travail a été fait par plusieurs personnes. La Saguenéenne d'adoption a entraîné les deux patineurs pendant 5 ans, Samuel de l'âge de 12 à 17 ans et Kim de 9 à 14 ans. Dans le soleil, une nouvelle remontée testée et améliorée à la station de ski Stoneham. La station de ski Stoneham testait cette saison de toutes nouvelles technologies pour ses usagers en inaugurant une remontée mécanique quadruple avec tapis d'embarquement. Une innovation bien reçue par les skieurs qui a toutefois demandé quelques adaptations après un arrêt électrique en début de saison. L'éclipse de son nom est le résultat de plusieurs mois de travail et d'un investissement substantiel de plusieurs millions de dollars dans un partenariat avec Doppelmayr, une entreprise autrichienne ayant choisi d'installer l'un de ses bureaux à Saint-Jérôme, près de Montréal. C'est sûr qu'avec l'arrivée de nouvelles installations, il y a un ajustement à avoir. Quand on a eu réception de la chaise, il y a eu toute une période de rodage et aussi de formation, conseil de Geneviève Clavet, la chef des communications de RCR Québec, entreprise qui est également propriétaire du Mont-Sainte-Anne. Avec l'arrivée des premiers clients, c'est sûr qu'on a dû s'ajuster. On est très conscient que la clientèle est sensible à ça et c'est pour ça qu'on travaille constamment et étroitement avec le fabricant en cas de besoin, étant donné que c'est un nouvel équipement, sensible donc à la sécurité. L'efficacité de la nouvelle remontée semble bien plaire aux amateurs de plein air de la région de Québec, dont les commentaires sont très positifs, selon Mme Clavet. Juste pour terminer sur cette nouvelle, en plus d'accélérer les montées de 3 minutes en moyenne, la chaise quadruple ouvre la porte à une autre clientèle plus âgée qui apprécie le confort et la prise en main facile du système, ajoute donc Mme Clavet. Ici Hélène Denis, vous écoutez le quotidien des quotidiens en ce lundi 19 février 2018. Assez doux comme température. Merci d'être à l'écoute de la station de radio de Canal M de Vues et Voix.